Donc on est très 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 heureux, vraiment François, d'accueillir donc François. Je ne sais pas comment il faut te présenter, alors tu vas te présenter parce que comme tu as deux casquettes, je ne sais pas laquelle tu veux. À mon avis, c'est celle de la même maison que la mienne, c'est-à-dire le Centre National de la Recherche Scientifique. Voilà. Et aujourd'hui, il va nous présenter quelque chose qui s'appelle « Attentat graphique, une esthétique de la violence entre 79, c'est ça hein, François, et 84. »
Bonjour à tous. Donc mon diaporama qui va se dérouler comme une sorte de diaporama commenté parce que je ne vais pas faire de conceptualisation, je vous laisserai le faire dans la discussion si vous voulez, tourne autour du travail graphique que j'ai effectué entre 79 et 84, c'est-à-dire à la fin de mes années lycée jusqu'au début, tout début de Béroyer Noir, pour vous montrer un peu la transition en fait, d'une esthétique, qui part d'une esthétique punk vers une esthétique post-punk, si on prend le départ de Béroyer Noir. En préambule donc, de cette présentation diaporamique, je voudrais rappeler peut-être quelques fondamentaux graphiques qui m'occupent, qui occupent mon esprit à cette époque. Il y a tout d'abord Bazooka. Hein, cette communication elle rentre en résonance en fait, avec ce qu'a dit Eric de Chassé ce matin, et puis ce qu'a dit Philippe aussi, et évidemment la communication de l'India, parce qu'on va retrouver aussi cet outil graphique qui est la croix gammée. Ça rentre en résonance avec Bazooka, l'occupation graphique de Bazooka à Libération, de l'été 77 à 78. Alors même si je n'étais pas dans le mouvement punk encore, j'étais préoccupé par cette occupation, et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu quelques exemples ce matin, mais cet hippopotame aussi qui était avec une croix gammée sur le corps, qui rappelait un peu d'ailleurs l'ouvrage de Ionesco, Rhinocéros. Donc, du point de vue des influences artistiques, j'évoquerai trois grands noms. Jackson Pollock, que vous connaissez pour le geste. Francis Bacon aussi pour les déformations de visage. Et puis Vladimir Velikovic, qui est né en 1935, qui est toujours vivant, pour le rapport au corps humain ou aux animaux. Et puis il y a d'autres mouvements dont on a parlé rapidement ce matin, sur lesquels on peut faire des connexions rapides. C'est évidemment le dadaïsme, l'expressionnisme occidental allemand aussi, hein, qui a pu jouer un rôle. Et pour ma part, l'expressionnisme du groupe Gutai, corps concret, groupe japonais, qui a officié dans les années 50-72. Alors mon diaporama s'articule en quatre actes, si vous voulez. J'essaie de revenir sur le... Bon. D'abord, la première expression graphique, plastique, directement influencée par le mouvement punk britannique. Hein, il faut le dire que, notamment avec ma grande sœur, on était très très intéressés par tout ce qui se passait du côté de l'Angleterre, mais on avait des échos évidemment de ce qui se passait en France, notamment un concert de métal urbain qui s'est déroulé près de la fac de Jussieu, et notamment en 77, et notamment la venue des Sex Pistols au Chalet du Lac. Et donc c'était une source incontournable pour nos déconstructions, provocations, et représentations graphiques, vestimentaires, etc. Donc on a parlé aussi avec Philippe ce matin des albums et de leur influence. Alors sur ce cliché-là, vous avez des collages punk, et puis vous avez au milieu le fameux t-shirt Destroy qui était en vente à la boutique Harry Cover, qui était aussi un lieu tout à fait intéressant, où il y avait tout un... Quand vous rentriez dans la boutique sur la gauche, il y avait tout un placard de t-shirts punk, et puis il y avait les albums en facing. Et c'était une boutique assez mal fréquentée, mais qui me plaisait beaucoup. C'est le départ de notre do-it-yourself, si vous voulez. Je ne sais plus où est-ce qu'il faut appuyer pour descendre. Tac. Alors ça fait partie des objets. On n'a pas parlé beaucoup des objets fétiches. C'est un objet punk. C'est une mascotte Destroy qui est confectionnée à partir d'un Action Man et qui a été pendu dans ma chambre, dont vous avez une photo, et qui intéressait les visiteurs qui pouvaient venir chez moi. Donc vous reconnaissez la mascotte, pardon, vous reconnaissez la jeune fille du Bromley Contingent sur un badge confectionné par moi-même. D'autres collages punk, ici c'est dans l'encadré, ça doit mesurer à peu près une feuille A3, qui a été réalisé en 79 et terminé en 84. C'est un condensé des influences musicales, badge rectangulaire de ma fabrication, on les voit sur les gros plans. que je refourguais d'ailleurs à Harry Cover, puisque j'ai même réussi à faire des badges des fêlés qui étaient friands de ce genre de do-it-yourself. À la boutique Harry Cover, tout à fait. Peut-être, ouais. Il me semble que c'était Marc Zermati qui tenait la boutique, et après peut-être. Ouais. Alors, je reviendrai sur les fréquentations de cette boutique si on a le temps. Alors, il y a mon visage quelque part, Rat City Control, je ne sais plus où il est, mais enfin, on reviendra sur la représentation de soi-même dans les concerts. Le voilà. Ça, c'est la première veste punk que je porte à l'Olympia. Alors, j'ai fait une relation veste et concert pour montrer aussi la corrélation, c'est-à-dire qu'il y a une part de déguisement, il y a une part de jeu, mais évidemment... Pour la petite histoire, cette veste, je l'ai portée à l'envers jusqu'au concert et je l'ai retournée au concert parce que mesurant 1m60 et pesant 40 kg, on était des petits gabarits et très souvent on était pris à partie par les Ted ou les Rockers qui nous guettaient au coin de la rue. Donc du coup, cette veste, je l'ai portée, puis après je suis ressorti de ce concert. Qui rassemblait en fait toute la punkitude française, notamment Métal Urbain, Gasoline. On n'a pas parlé de Gasoline, mais ça, c'était véritablement un groupe Destroy. Electric Callas, qui avait plusieurs looks, mais qui était intéressant aussi. Enfin, toute une vague de groupes, et Star Shooter, et toute une vague de groupes punk, dont peut-être il aurait fallu parler un peu plus ce matin. Autre chemise, c'est la chemise Clash, que je porte donc au Stadium lors du concert, je suis désolé. Cette chemise Clash, c'est pareil, c'est une confection maison pour le concert des Clash au Stadium en 78. Et là, par contre, évidemment, ça a été porté plusieurs fois. Après cette chemise Clash, il y a une chemise Détruire. Alors ça aussi, ça faisait partie du graphiste, c'est ça. Ça faisait partie du graphiste, c'est-à-dire la confection de pochettes de disques virtuels. Lorsqu'on n'avait pas la véritable pochette, on pouvait confectionner ce qui était le cas pour Clash City Rockers, dont j'avais pas la pochette. Je voulais vous montrer un exemple de fabrication maison à l'image de ce que pouvait faire Vivian Westwood. Donc Acid Dictionaries à King's Road, et donc c'était le même type de chemise que je pouvais confectionner avec portrait de Marx, un signe nazi et brassard Chaos, qui d'ailleurs lui a été acheté, je crois, en Angleterre, soit chez Boy, soit peut-être à Acid Dictionaries, je m'en souviens plus. Autre chemise portée au concert de Suicide, c'est une chemise nihiliste qui est assez provocante. Je dois dire que je ne l'ai pas reportée après, qui m'a servi surtout d'outil de travail, parce que vous voyez, il y a des insignes absolument importables aujourd'hui, comme Fraction KKK, c'est un peu dérangeant. Enfin, Suicide étant un groupe américain, je me suis dit que ça pouvait coller. T-shirt survie graphique dans la veine de Bazooka, avec le début d'un certain nombre de pochoirs. Vous avez par exemple Holger Mainz, membre de la RAF, sur son lit de mort après sa grève de la faim. L'acte 2, donc, c'était les portraits autoportraits. Vous savez que les punks, c'était la seconde expression du mouvement punk, étaient très portés sur le identity de X-Ray Specs. Qui suis-je? Quelle représentation de moi et des autres? Et globalement... une vision un peu narcissique de soi-même, d'autant plus qu'à nos jeunes âges, on était en train d'évoluer et on bougeait, nos corps étaient en cours de fabrication ou de désintégration et il fallait prendre ça en photo. Donc ça, c'est une des rares photos de l'époque, c'est 79, c'est ma sœur qui a pris les photos sur un balcon en travaux et voilà, c'est le type d'accoutrement donc, que je portais en classe de seconde au lycée Paul Valéry. Et puis comme à l'époque on n'avait pas de portable, on se lançait dans toutes sortes de selfies. Et là, ce sont des selfies qui datent de 77 jusqu'à 82, et dont certains ont été repris dans les autoportraits que j'ai publiés dans l'ouvrage qui vient de sortir chez Archives de la Zone Mondiale. Voilà le type d'autoportrait réalisé à partir de... et là, évidemment, il y a une connexion avec ce dont on parlait ce matin, avec la pochette de disque de Eddie and the Roth Rods. D'autres portraits, alors là vous reconnaissez évidemment Johnny Rotten avec un badge LEAP pour, en hommage aux ouvriers des montres en grève à cette époque, et puis une punk girl qui est essentiellement tirée de photos. Alors d'autres jeux avec la politique, vous avez Piu Piu Piu, donc portrait d'Hitler en extase, et puis vous avez un portrait de Staline version fauviste, voilà, petit père des peuples. Tout ça débouche sur les autoportraits de Berruyer Noir qui sont insérés dans le LP Macadam Massacre de 1983. Une des photos fétiches qui donne écho en fait à ce que nous a raconté l'India, c'est-à-dire ce rapport des rockers à la casquette, à un look homo ou anti-homo, en fait, hein, ou militaro, si vous voulez. Et là, c'est vrai que c'est un look que moi, j'ai particulièrement adopté et utilisé, notamment au tout début de Berruyer Noir. Hein, vous voyez la connexion que l'on peut faire entre les deux. L'acte 3 de ce PowerPoint est dédié aux violences politiques. Si l'expression est politique, elle s'intéresse au cercle vicieux des guerres, des révolutions, des répressions, des dictatures, de l'affrontement avec l'État. Hein, donc là aussi, on est dans quelque chose qui replonge dans les années, dans la fin des années 70, avec le terrorisme urbain, avec la fraction d'armée rouge, avec les brigades rouges et avec Action Directe en France. Moi, j'avais plutôt une particularité, c'est d'être passionné par ce qui se passait en Irlande. Et mes premiers tracts politiques scotchés sur les murs de Paul Valéry étaient dédiés aux manifestations des grèves de la faim des prisonniers de Lancash, dont certains sont morts. Et là, vous avez donc Raymond McCartney, qui lui est un des rares survivants, après 53 jours de grève, et qui a passé 19 ans dans la prison de Lancash en Irlande. Vous avez aussi un tract, c'est un peu la liaison avec la thématique ethnique, un tract des Cherokees qui va donner sur Guernica, et Guernica, bah, je vais leur piquer leur guitariste préféré, puisque Laurent va fonder Berruyer Noir avec moi. Et puis, d'inspiration crasse aussi, vous voyez, Paris Basse 84, point limite, bon, ce sont des petites choses qui sont, à vrai dire, jamais sorties vraiment de ma chambre. L'image était très importante et vous voyez qu'à chaque fois on travaillait comme bazooka sur l'image et le détournement d'image. Une image qui nous avait particulièrement intéressé, c'est l'image de cette pollution à Seveso en Italie, à la dioxine, avec cette petite fille avec le visage masqué que l'on retrouve ici et que j'ai accompagné d'un poème de Paul Éluard. Vous avez aussi ce passage du chic nazi à l'antiracisme avec la fabrication d'une affiche qui n'est jamais sortie contre le racisme en France. Et puis ici, toujours un rappel, c'est le folklorisme mondial qui commence à s'exprimer, c'est un soldat israélien qui tape sur une femme palestinienne, mais c'est une ébauche qui n'est jamais non plus, qui n'a jamais abouti. Pour l'heure, ce qui a été visible, ce qui a beaucoup circulé, c'est la propagande des premiers Berruyer, les tracts que j'ai faits à l'époque de 80, entre 80 et 82, et qui reprennent en fait l'imagerie punk et l'imagerie de cette époque, l'imagerie liée aussi au terrorisme urbain de la fin des années 70. Autre type de mélange, ça s'appelle « Nous autres, les lapins », pour dénoncer aussi le fait que les lapins de laboratoire sont comme nous et pensent comme nous. Enfin, il y a toute une gestuelle qui est affirmée dans ce type de graphisme. Ça, ce sont des pochoirs que j'ai réalisés donc avec ma sœur et que l'on placardait en fait autour du lycée Paul Valéry dans le 12e, avec donc un portrait de Bader et de Groudon Enslin, et puis toujours ce rockers, ces deux rockers, rockers Anar, No Anar, et qui voilà. Vous avez d'autres travaux sur la guerre qui commencent à m'intéresser et qui débouchent en fait sur une iconographie liée au Berruyer Noir, c'est-à-dire le premier maxi Nada, la pochette qui n'est jamais sortie, et puis le dernier maxi Nada, le recto de la couverture dédié aux étudiants de Tiananmen, qui n'est jamais non plus sorti. Le quatrième thématique, on ne voit pas ce que c'est, mais c'est violence, c'est les corps. C'est toute la problématique sur les corps et sur la viande. Là, c'est une performance que l'on a fait à la Fac Saint-Charles en 82, dans un atelier de Niels Hjalter. Et on a appris aussi à l'époque, Michel Journiat, qui travaillait beaucoup sur le corps, était un des profs de la Fac Saint-Charles. Bon, c'était une fac où vraiment on pouvait faire à peu près ce que l'on voulait. Et les enseignants étaient toujours assez intéressés par les divagations qu'on pouvait faire, qui étaient assez improbables en fait. Mais là, vous avez des références liées à ce que j'appelle un peu l'ethnicisation, avec le côté rappel de Picasso. Il y a un côté japonais qui fait référence à Kwaidan, fantôme japonais. Vous avez plusieurs références entremêlées, avec un intérêt toujours aussi un peu à l'image de ce que pouvait publier le groupe Pop Group dans les années 80. Autre performance artistique, mais celle-ci qui a eu une grande résonance, c'était ce qu'on a pu faire à la Biennale de Paris en 82, lors d'une thématique qui s'appelait « La viande hurle dans ma mémoire », que l'on a montée avec le groupe Abattoir et le petit groupe dont je faisais partie, Acte Énergie Perdue. Donc tout un travail sur la viande qui a été détruit, d'ailleurs celui-ci a été détruit après, et d'autres travaux qui sont restés sous mon lit, dans ma chambre, pendant des années. Voilà. Donc je dédie ce clap de fin à Casque d'Or, la Générale des Fleurs, à Polystyrène, qui était, à mon avis, une icône punk tout à fait intéressante, parce qu'elle sortait, elle explosait les normes de la punkitude habituelle. Elle n'était ni en brassard comme Suxy, elle était habillée de façon assez improbable, et avec un visage aussi improbable par rapport à tout ce qu'on pouvait voir comme punk. Je vous remercie.
Bien, merci François pour cette présentation et communication et présentation de ce travail. Je pense que les questions ne vont pas manquer, j'imagine, à la fois sur le parcours, sur l'œuvre, et puis peut-être l'analyse, l'auto-analyse qui en est faite, hein, qu'on peut.
Oui, aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
Vous avez la parole.
Mais les abattoirs, c'est un lieu qui a été d'abord investi par Lucrat Milk, ouais. Puisque la fameuse Raya des années 80, vous avez d'ailleurs une page Facebook, Raya 80, sur laquelle on voit toute la Raya de Lucrat Milk qui existe, et là où on voit de belles crêtes punk en France. Et les abattoirs, c'est vrai que c'était des lieux qui étaient en cours de destruction et qui nous intéressaient beaucoup, qu'on investissait. Et d'ailleurs, les premiers crochets de boucherie de Béru, de porcherie, viennent de ce lieu. De la Villette.
La fameuse
performance a été explosive. Oui, c'est ça.
On peut avoir le micro, je sais pas. Marsu, tu veux bien prendre le micro ? Je sais pas, parce que tu fais des commentaires et qu'on les entende. Parce que...
Non, mais c'est une petite discussion entre nous.
Non.
Alors, je pense que les gens les ont entendus.
Ouais, j'ai beaucoup apprécié, bien sûr, hein, la présentation. Et ça me renvoie à un travail qu'on doit faire. C'est interroger l'ensemble des personnes qui ont... sur la façon dont elles sont rentrées dans le punk et comment, comme tu l'as fait là, toutes les petits trucs d'adolescents, de gamins qui prennent du sens et qu'on va connecter au monde, qu'on va connecter à ce qui est en train de se passer et comment on se l'approprie et comment on s'approprie d'abord à titre individuel, mais aussi comment ça résonne avec l'ensemble, quoi. Et ça, alors, tu as une position qui est connue par rapport à ce que tu as fait ensuite, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut produire à tous les niveaux, y compris chez les anonymes, chez des gens dont on ne parle pas, qui ont eux-mêmes sous le lit des choses qu'ils gardent quand ils avaient 20 ans. Et ça nous permet de saisir un petit peu les limites de ce que j'abordais ce matin, c'est-à-dire comment ça marche. Comment ça marche? Comment tout d'un coup tu vas mettre le Ku Klux Klan sur un truc parce que tu as 18, 20 ans et que ça ne prend pas du tout le sens que vont le projeter les adultes, les parents, les profs. D'ailleurs, chez Lydia tout à l'heure... Où elle est? Elle est partie. Ah, tu es là. En fait, Lydia, quand tu disais aujourd'hui, les jeunes savent beaucoup plus de choses sur le nazisme, etc. Ça se discute?
Ça se discute, parce que
quel sens ça prend?
Nous, on était informés. Moi, je passais beaucoup d'heures à la Bibliothèque publique d'information, à Beaubourg, qui a ouvert en 77. Et il y avait toute une... C'était affreux ce qu'il y avait sur la Seconde Guerre mondiale. Mais évidemment, ça... ça ça nous fascinait aussi. Donc il y a aussi cette volonté de détourner l'image. Et ma petite copine d'alors, d'ailleurs, qui était à Paul Valéry, elle est venue une fois en classe avec un pyjama rayé. Bon, il y avait tout ce côté kitsch. Hein, je crois que c'est Saul Freilander, l'intellectuel israélien, qui a parlé de kitsch nazi quand il a parlé de Liana Cavani, de Portier de nuit, de toute cette génération de cinéastes qui ont détourné ou qui ont érotisé un peu tout ça. Et c'est vrai qu'il y a, moi je retiens le côté provocateur, c'est-à-dire que renvoyer cette image face à la société. Hein, c'était faire un doigt, quoi. Dire Belsen was a gas, c'était vraiment vraiment subversif. Mais nous, je crois qu'on le maîtrisait pas tant que ça. Hein, c'était un jeu. Après, c'était un jeu qui n'a pas duré longtemps, parce que dès qu'on s'est pris des claques et dès qu'on s'est pris des bastons, comme tu dis, on retournait les brassards et puis on est passé très vite à autre chose. Et c'est des années, je dirais 78-79, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. D'abord parce qu'on était au lycée. Et moi, j'ai eu ma première bagarre, c'était à cause de mes fringues aussi au lycée Paul Valéry. Et donc, et puis on avait l'école de boucherie qui était une école de boucherie prolétaire avec des rockers. Et quand ils faisaient des descentes APV, ils venaient pour essayer de taper du punk. Donc, et eux, ils récupéraient les badges des punks. Donc ils avaient des badges Hitler, ils avaient des badges. Ils étaient kitsch aussi alors. Ils étaient devenus kitsch aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose.
Je pense qu'au-delà des connaissances que vous pouvez avoir sur cette période de l'histoire, le rapport à l'histoire a changé, en fait.
Le rapport à l'histoire, à la mémoire, a complètement changé. Et on en parlait tout à l'heure. À l'époque, je regardais beaucoup de cinéma japonais. Si vous prenez les films de Oshima, de Tanaka, ce qu'on appelle le roman porno, tout ça, c'est insupportable à regarder maintenant. C'est-à-dire que quand il y a des scènes de viol, on n'a plus du tout la même vision et la même appréhension des choses au corps, par rapport au corps et au sexe. Donc c'est... En plus, au niveau du sexe, je dois dire qu'au niveau des punks, c'était quand même assez limité. Hein. On n'était quand même pas... Enfin, il pouvait y avoir un ou deux dandys parmi nous, mais on était très jeunes, et puis c'était quand même pas... Je pense qu'on ne maîtrisait pas du tout ça, quoi. C'était quelque chose qui nous amusait. C'est... Voilà.
Je crois qu'il y a Marsu qui voulait prendre la parole.
Oui, non, pour revenir à la question
c'était un jeu dangereux.
Ouais, de l'esthétique, il y a une part d'attraction de la morbidité qui est très adolescente. Donc c'est pour ça qu'on commence très jeune, souvent à tomber dans le punk. On commence à 13 ans, 12, 13 ans. Et c'est quelque chose qui évolue après progressivement. Mais il faut remettre aussi dans le contexte le fait qu'il y avait plein de sous-groupes, de sous-cultures. Et la rue était un territoire aussi, un jeu... où justement il fallait s'éviter les uns les autres, on se faisait bastonner parce qu'on avait tel insigne, ou justement de porter. Moi j'avais une croix de guerre par exemple, que je me suis fait arracher. Il fallait oser, quoi. Ça faisait partie, c'est comme l'idée d'avoir un blouson noir, tu portes un blouson noir, mais il faut le défendre. C'était pareil pour les docks ou les ranjos, tu revenais en chaussettes. Mais ça faisait partie aussi d'un jeu qui n'était pas très drôle, mais qui était une forme de ritualisation adolescente aussi. Parfois, ça pouvait être très violent, mais simplement, c'était une mise à l'épreuve les uns des autres, entre Paris et la banlieue aussi. Après, il y a toute l'arrivée des B-Boys, qui a un peu fait le ménage aux Halles, par exemple, autour de La Fontaine. Bon, il y avait des coins, il fallait les défendre, et puis c'est les choses éphémères. Et cette esthétique portier de nuit, par exemple, je pense que c'est une attraction érotique. Avant d'être politique. Et puis c'est aussi en effet pour emmerder les vieux, quoi. C'est clairement pour exister. Et c'est un jeu entre érotisme et morbidité qui correspond beaucoup à ce moment. Après, pourquoi tout le monde n'est pas devenu punk, je ne sais pas. Mais je pense que tous les ados devraient l'être, quoi, quelque part. Voilà.
Ouais. Moi, je voulais juste intervenir sur deux, trois points. Qui était le premier? Qu'il n'y avait pas que la fascination pour l'esthétique nazie, qui est aussi que dans l'élément entre le t-shirt de Sylvie Schuss, qui lui est un décalque d'un drapeau nazi, puisqu'il est sur fond rouge avec la croix gammée dessus, et puis le t-shirt de Rotten, il y a une grande différence. Le t-shirt de Rotten, il y a Destroy, en dessous, il y a tous les symboles additionnés qui peuvent irriter les gens, puisqu'il y a le drapeau, il y a le timbre avec la reine. Il y a le Christ qui est à l'envers, et à la Croix-Gamay. Donc l'assimilation, là, est quand même nettement plus évidente. Et il y a une distanciation qui n'est pas du tout la même. Et ensuite, on l'a vu, par exemple, dans ce qu'a pu présenter François, il y a aussi souvent Marx qui apparaît. Donc ça joue quand même pas mal avec les symboles. Quand on pense au t-shirt de Clash, par exemple, avec la faucille et le marteau, c'est pareil, ça joue à plusieurs degrés. Et en fait, je crois qu'il y a avant tout un jeu avec les symboles qui ne touche pas que l'histoire du nazisme. Parce que là, je pense qu'il y a une focalisation que tu opères qui est... effectivement, parce que ça t'a peut-être sauté aux yeux, mais qui est qu'un élément parmi tant d'autres. En général, de toute façon, il y a une fascination, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la mort, le coup de Seveso, mais en même temps, tout ce qui concerne les images de guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait été travaillé. Moi, je me souviens très bien d'avoir vu la guerre du Vietnam et la guerre du Cambodge à la télévision. Et c'est des choses qui nous ont marqué. Le côté genre image noir et blanc, que tu travailles 25 fois à la photocopieuse pour fournir des super contrastes, avec derrière des choses pas forcément visibles, où on voit les avions, comme dans, par exemple, la pochette d'Holiday in Cambodia des Kennedys, en train de déverser leurs bombes. Les trucs avec des images de tirées de la guerre 14-18, par exemple, comme on peut avoir sur certaines pochettes de Discharge, etc. Il y a quand même une fascination, en tout cas toujours pour des choses qui sont hyper contrastées et qui sont hyper tranchées et hyper clivantes, où il faut que ça choque. Et en même temps, il y a un background qui peut être interprété toujours à plusieurs degrés, parce que, évidemment, quand on dénonce quelque chose, on est forcément fasciné en même temps par cette chose-là. Et là, par exemple, sur la fascination pour le look nazi, ou bien penser que ce qui n'a pas été cité, c'est aussi des films comme, par exemple, Rocky Horror Picture Show, par exemple, qui sont quand même, qui à l'époque étaient quand même des références, et où il y a déjà les mecs habillés tout en cuir, qui jouent avec le côté genre nazi-homo décadent, quoi, qui sont là pour détruire le monde, qui a des références même qu'on trouve dans le rock garage, etc., sur des choses qui remontent carrément aux années 50. Il y a quand même tout un background où, mine de rien, le punk, il n'arrive pas sur rien. Il combine des tas d'éléments. Des fois, il s'y oppose. Des fois, il les recycle. Souvent, ça met les grands dadas, je parle de la contre-culture, mais il y a énormément d'éléments de la contre-culture qui sont valorisés sous un angle visuel différent. Par contre, finalement, au niveau du point de vue sur le monde, ça reste assez semblable. Et au niveau de l'esthétique, par exemple, on n'a pas cité les damnés de Visconti, par exemple, et dans les damnés de Visconti, l'esthétique est hyper proche de Portier de Nuit, avec le mec qui vrille complètement et puis qui part dans le nazisme comme une sorte de catharsis, quoi. Ça, c'est une fascination aussi qui comprend toute l'ambiguïté que peut avoir ce... Puisque, bon, le gars est pédophile, en plein Oedipe avec sa mère.
Il y a tous les films de Fassbinder aussi, à l'époque.
Oui, tout à fait, oui.
Mais je crois que là où je te rejoins, c'est ce qui m'intéressait aussi de voir, c'est la diversité du mouvement punk. C'est-à-dire que peut-être s'il n'y avait pas eu les Clash, on n'aurait pas eu la bonne éducation. C'est-à-dire que je crois qu'aussi les Clash ont apporté... une parole à un moment donné qui peut-être a mis des limites. Hein. Donc parce que si tu fonçais avec les pistoles, c'était hyper destroy, quoi. Les dames, bon, après c'est ça virait dans quelque chose de grand guignolesque. Mais
attends, juste un truc.
À cette nuance quand même que quand tu regardes les ex-pistoles, ces ex-pistoles sont éminemment politiques.
Oui, bien sûr. Non,
c'est pas bien anarchiste, mais quand même, la vision tu parlais de Besson Was the Gas, par exemple, tout à l'heure, mais il y a quand même énormément de textes comme Poésie Bellicante, etc., où ils pilonnent quand même l'intégralité de la société. Il n'y a pas qu'un côté purement destroy, quand même. Alors qu'à la limite, les Damned, oui, effectivement, les dames ont vraiment ce côté-là. Ouais,
ouais. Non, c'était juste une connerie, c'est que finalement, cette question traverse toutes nos journées d'études à chaque fois, de l'expression, le visuel, l'esthétique. Le vestimentaire, etc., la coiffure, le corps, comme Philippe en parle, c'est un terme complètement transversal à toutes les journées. Celle-ci est particulière, mais je me rappelle d'une journée où Christophe avait parlé du punk en Basse-Normandie. Et ce jeu de l'expression et des symboles visuels, pour tout jeu, il faut être deux. Et il avait raconté un truc qui nous avait fait super rigoler, c'est que c'était Claude Levieux... à Lisieux en 77 et avec ses potes qui mettent une chemise façon Clash avec des insignes nazis et qui descendent dans Ponto de Mer et ça fait chier personne. Donc c'était super super drôle parce qu'il faut déjà voilà, c'est, et voilà, ben, donc ça, faut avoir une réponse déjà pour
Donc ça nous avait fait bien marrer. Et cette provocation-là, il faut déjà qu'elle touche quelqu'un.
Au niveau de la société, je dirais que moi, l'image que je pouvais renvoyer dans le métro avec des lunettes de soudeur et ce genre de chemise, c'est vrai que les gens ne s'intéressaient pas forcément. Hein, tu vois. Par contre, on avait des problèmes avec les autres sous-cultures. C'est-à-dire que là effectivement, c'était provoquant pour les rockers et puis tous ceux qui voulaient nous faire la peau, pour les discos, pour les voilà.
Pardon. Ouais, quand même, je me souviens de périodes où maintenant, où c'est banalisé à mort, mais à l'époque, des fois, tu te ramenais, tu étais juste, même tout seul des fois, mais pas besoin d'être à deux ou trois, et la moitié du wagon était vide et te laissait de la place, quoi, parce que les gens flippaient. C'est aberrant, mais c'était comme ça.
Bien, on va prendre une dernière question.
Une intervention. C'est vrai que nous, en banlieue, l'arrivée du punk, ça a été en fait la réappropriation d'un corps viril. Et ça a été la possibilité de s'afficher en tant que tel que l'on était, en dehors d'un simple schéma qui pouvait être à ce moment-là très simplement rockabilly, baba cool ou doudoune basket. Et ça a été une forme de libération. Et il y a peut-être eu une érotisation des symboles nazis à travers la musique et à travers l'esthétique. Mais après, tu l'as très bien montré à tes travers avec tes travaux de collage. Mais après, toi, tu as basculé vers une interprétation beaucoup plus politique, parce que le fait de pendre la tête de l'État avec la glorification de la Rotten Army Fraction et de Biedermeierhof, tu as basculé dans un répertoire qui était vraiment polarisé. Alors, si au départ, on s'est réapproprié finalement les symboles de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était 25 ans après, on était tous quelque part concernés dans nos familles, si on a pu dépasser ça, quelle est ta responsabilité, toi, finalement, en tant qu'artiste, dans cette polarisation que tu as eue vis-à-vis d'une jeunesse qui, du coup, à essayer d'enseigner le second degré avec plus ou moins de bonheur au service de sécurité et au RG.
Au niveau de la responsabilité, je pense que c'était... Quand apparaît Berruyer Noir, on est vraiment dans cette fin du terrorisme urbain que nous, on considérait comme étant les dissidents de l'Ouest. Hein, c'est-à-dire que Biedermeierhof était une figure charismatique parce que c'était des ça pourrait être nos grands frères qui faisaient peur à toute l'Europe. Donc il y avait ce côté de la rébellion intégrale ou totale. Évidemment, j'en suis beaucoup revenu lorsque on a découvert que tous ces gens-là avaient des réseaux en Allemagne de l'Est et qu'ils étaient soutenus par des financements. Voilà. Donc la responsabilité fait que ça m'a construit, évidemment. Mais pour l'Irlande, c'était une question de guerre néocoloniale. Hein, donc on était dans la rébellion. Moi, les premières manifestations, elles étaient devant l'ambassade britannique en faveur des prisonniers. Et ça, c'est quelque chose qui nous a accompagnés, les Berruyer Noirs. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur tout ce qui concernait la prison et l'emprisonnement. Et d'ailleurs, notre camarade Masto, le saxophoniste, continue à faire des concerts dans les prisons pour femmes à l'heure actuelle, hein, ce qui est un bel acte de résistance. Des stages de formation. Hein, donc c'est vrai que, oui, responsabilité, mais la responsabilité, elle est collective aussi. Hein, elle est ce qu'en font les gens. Nous, on lançait des choses. C'est pour ça que je dis souvent que vous écoutez un morceau comme Bûcheron, l'interprétation, elle peut passer de l'extrême gauche à l'extrême droite. Hein, je veux dire, c'est assez... c'est la personne qui reçoit. Alors, soit c'est un manifeste pro-écologiste, soit c'est un manifeste pour le massacre total, soit c'est... Non, vous voyez, donc tout est... Là, je crois que nos chansons étaient des bombes et que les gens on les ont récupérées et voilà. Mais par contre, le rôle d'éducateur, moi, je pense que Clash a eu ce rôle-là à un moment donné, Crass aussi. Et Crass, c'était intéressant parce que Crass disait « We are Crass, not Clash ». Parce que Clash était déjà, avec Sandinista, pardonnez-moi, c'était quelque chose que je n'ai pas pu, réceptionner comme il fallait, quoi.
Bien, merci François, je crois qu'on peut applaudir de nouveau cette présentation.
Désolé.